à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Lundi, dans notre émission consacrée aux douleurs squelettomusculaires, un auditeur nous écrivait pour nous dire que la gémothérapie, la thérapie par les pierres, fonctionnait sur son cas. Je ne préjugerai pas de son efficacité sur notre auditeur, mais pour l'instant, aucune étude scientifique ne va dans ce sens. Quand une thérapie complémentaire fonctionne sur soi, nous avons tendance à généraliser et à extrapoler sans preuve ses bienfaits potentiels. Alors comment faire le tri entre ce qui fonctionne sur des bases scientifiques et la jungle des médecines douces? Nous vous ferons découvrir ce matin un nouveau terme, les interventions non médicamenteuses, des méthodes thérapeutiques fiables qui ont subi des protocoles et un cahier des charges solide, qu'il s'agisse d'hypertension, de surpoids, d'anxiété, de fatigue, de stress ou encore de diabète de type 2. Nos médecins ce matin attendent toutes vos questions au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Bonjour professeur Grégory Ninot.
Bonjour Ali.
Vous dirigez l'Institut d'Hébray d'épidémiologie et de santé publique de Montpellier. Vous êtes également chercheur à l'Institut du cancer de Montpellier. Et vous publiez chez Belin 100 médecines douces validées par la science. Bonjour docteur Patrick Lemoine.
Bonjour Ali.
Vous êtes psychiatre, docteur en neurosciences et vous publiez avec José Blanc-Lapierre « Médecine douce pour temps dur ». Alors un mot d'abord sur les termes « médecine douce ». Vous n'aimez pas beaucoup cette expression, Grégory Ninot, pourtant vous l'utilisez peut-être pour que le grand public sache un peu de quoi il s'agit, plutôt que d'utiliser le terme que vous préférez, les interventions non médicamenteuses, les INM, hein. C'est pour cela que vous avez choisi ce terme-là, que vous n'appréciez pas forcément.
Exactement. En fait, le terme médecine douce est une nébuleuse avec énormément de pratiques. Et en fait, la Haute Autorité de Santé, en 2011, a établi un terme qui s'appelle donc les interventions non médicamenteuses, donc publié un rapport en disant il est temps de valider et de recommander des pratiques qui ont une efficacité avec des données probantes. Et donc, à partir de ce travail de la HAS, il y a eu d'autres mouvements établissant de la recherche clinique et en disant... Oui, effectivement, il y a des INM, donc des interventions non médicamenteuses dans cette nébuleuse, et il y a d'autres pratiques qui n'ont pas encore eu suffisamment de preuves et d'études cliniques démontrant leur efficacité.
Et une intervention non médicamenteuse, une INM, est une solution à un problème de santé identifié en amont. Hein.
Exactement, c'est un point très important. Il ne s'agit pas d'un point identifiant des problèmes en fait et des problèmes de santé, mais bien des solutions. Et il s'agit des solutions avec un protocole particulier pour une indication particulière, pour un trouble anxieux, pour un trouble du sommeil, mais pas quelque chose qui va être de l'ordre du mode de vie. Si on parlait du mode de vie, et vous avez eu une superbe émission, et j'espère que désormais vous mangez du salsifis. c'est une
pratique. C'était il y a 15 jours.
Exactement, je suis fan.
La semaine dernière.
De votre podcast, en effet. Mais on est bien dans le mode de vie. Et tout d'un coup, là, on change. On n'est pas dans de la méditation générale, mais bien une pratique spécifique qui va avoir un intérêt santé particulier avec des données probantes.
Or, de nombreuses interventions non médicamenteuses préviennent des maladies, modifient des comportements délétères, renforcent l'organisme et augmentent la durée de vie en bonne santé.
Absolument. Il y a beaucoup d'études aujourd'hui, non seulement issues d'études de cohortes sur lesquelles on suit des patients, mais également sur des études cliniques, mais également sur des études mécanistiques sur lesquelles on va montrer, je vais prendre un exemple très concret, dans le cancer, sur lequel aujourd'hui tout patient qui a été diagnostiqué par exemple d'un cancer du sein doit avoir un programme d'activité physique spécifique pour avoir un impact à la fois sur sa qualité de vie et en même temps sur sa durée de vie en diminuant de façon significative les récidives d'un cancer par exemple.
Docteur Patrick Lemoine, vous l'aimez ce terme d'intervention non médicamenteuse plutôt que médecine douce ?
Je l'aime beaucoup parce que je déteste autant les termes de médecine alternative que de médecine douce, que médecine naturelle. Pas du tout. Il peut y avoir une approche, on va dire, physiologique, c'est-à-dire allant dans le sens des processus organiques ou fonctionnels de l'organisme. Et je pense que ce terme est complètement adéquat.
Vous avez tout de même utilisé médecine douce pour votre titre.
Eh ben oui.
Et c'est votre éditeur qui vous a obligé.
Absolument.
Peut-être.
Vous savez très bien que c'est pas les auteurs qui choisissent les titres.
Alors pourquoi les interventions non médicamenteuses sont négligées en France ?
Voilà, le sujet est extrêmement vaste, Ali. Elles sont négligées pour plein de raisons, parce qu'effectivement, on a aujourd'hui une tendance par une certaine médecine biotechnologique dont on entend beaucoup dans les médias à se cibler sur la maladie ou à se cibler sur la tumeur, par exemple, et qu'effectivement, on va oublier la personne, et on va oublier la personne en son moment de vie. Et grosso modo, et vraiment, peut-être que c'est une personne qui a beaucoup œuvré, mais David Servan-Schreiber a été un témoin...
Psychiatre.
Psychiatre, neurologue, atteint d'une tumeur cérébrale, donc il a fait plusieurs livres en disant, dans la problématique de l'anticancer, bien sûr qu'il faut prendre en charge la tumeur, et bien sûr que ces tumeurs sont indispensables, mais en complément, il y a des INM qui vont potentialiser les traitements et éviter que la personne en souffre trop.
Patrick Lemoine.
Oui, David était d'ailleurs un de mes grands amis que je regrette toujours. Et effectivement, il a beaucoup apporté en France avec cette approche. Parce que j'ai envie de dire qu'il y a aussi un problème culturel en France. Par exemple, si vous allez en Hollande et que vous êtes malade, vous avez à peu près 45% de chances d'avoir une ordonnance avec un médicament. Si c'est en France, c'est 95%. Et je me rappelle à une époque, j'avais organisé à la demande de la Sécurité sociale une formation à des médecins. Le titre, c'était... consultation sans prescription. Mais... et je leur ai fait faire des jeux de rôle. Et il y avait une vingtaine de jeux de rôle qui ont été joués par une quarantaine de médecins, puisqu'ils étaient par couple. Aucun, sauf un, ne sont arrivés à ne pas prescrire, et le seul qui n'a pas prescrit a juste, dans le jeu de rôle, oublié de faire payer. Ça ne valait rien.
Vous ne remettez pas en question la médecine par les preuves scientifiques, Grégory Ninot.
Surtout pas, Ali, c'est bien l'enjeu. L'enjeu est de dire qu'il y a de la science. Ce livre pointe qu'il y a de la science, qu'il y a de la recherche sur certaines INM, pas sur d'autres, et qu'on doit encourager cette recherche. C'est la raison pour laquelle on a créé une société savante qui s'appelle Non-Pharmacological Intervention Society. L'idée est de pouvoir récolter des fonds pour mener des recherches et préciser ces modalités. Et avec un point très très spécifique vis-à-vis de ces recherches, c'est aussi de sensibiliser et les praticiens aux bonnes pratiques. Et donc effectivement, on est bien dans l'evidence-based medicine, mais l'evidence-based practice, donc des pratiques fondées sur les preuves et sur des protocoles, et pas évidemment une pratique qui est simplement exotique.
Vous savez, moi je suis un spécialiste du sommeil avant tout. Or, toute la médecine du sommeil est fondée sur une approche non médicamenteuse en premier. C'est le socle, c'est la base. Et puis en plus, mon premier ouvrage qui a bien marché, c'était Le mystère du placebo. Et donc, on a bien démontré depuis 96 que si les gens peuvent, entre guillemets, guérir sans intervention médicamenteuse, c'est que on incite leur cerveau, qui est une extraordinaire usine pharmaceutique, à fabriquer ce qu'on appelle des endomédicaments, c'est-à-dire des substances thérapeutiques endogènes qui vont promouvoir la guérison. Ce qui m'amène à dire qu'en fait, la vraie médecine fondée sur la science doit d'abord commencer par une approche physiologique, c'est-à-dire non médicamenteuse, et que la médecine alternative, c'est les médicaments.
Vous allez avoir du courrier ou des mails peut-être de pas mal de médecins ce matin. Quel est le cadre réglementaire des interventions non médicamenteuses, Grégory Ninot ?
On est dans une nébuleuse aussi importante que le terme médecine douce aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que depuis le rapport de la HAS dont je vous parlais en 2011, pour l'instant, la réglementation est très ambiguë et effectivement, il y a parfois des protocoles qui peuvent être plus clairs et dont les médecins peuvent se servir avec de la prescription. Exemple, des programmes d'activité physique adaptés, prescrits au décours des traitements du cancer. Mais la réalité, c'est qu'après, le tuyau réglementaire et les remboursements aujourd'hui ont de vraies difficultés pour différentes raisons et que la France doit avancer. La Suisse ou l'Allemagne ont déjà extrêmement avancé là-dessus avec des tuyaux et au sens de prescription, et vous l'avez dit, et également de remboursement, et que c'est tout un enjeu important. Il n'est pas que scientifique. Nous sommes des scientifiques, mais à côté, il est aussi réglementaire et aussi financier.
Et ça va encore plus loin. Par exemple, on sait qu'en matière de dépression, si la dépression est sévère, c'est clair qu'il faut donner des antidépresseurs parce que, en double aveugle versus placebo, ils gagnent. En revanche, dès que vous êtes dans des dépressions dites majeures, mais de quantité légère ou modérée, les antidépresseurs n'ont pas de différence avec le placebo. Et je suis tombé, un peu par hasard, sur un cocktail safran plus rhodiole, donc des plantes, qui m'ont donné des résultats. Et Dieu sait si j'en ai publié des articles sur les antidépresseurs, jamais vu. Donc j'ai lancé une étude de safran rhodiole versus placebo, interdit en France. C'est-à-dire que les comités d'éthique l'ont tous refusé en disant « nous ne pouvons faire d'essais double aveugle versus placebo », c'est-à-dire permettant une validation scientifique, qu'avec des produits sortant des éprouvettes des laboratoires, pas des plantes. Et il a fallu qu'on aille donc en Belgique pour arriver à mettre en place cette étude. C'est un vrai scandale, non ?
Alors, les médecines douces, tout le monde comprend de quoi il s'agit. Le pire côtoie le meilleur. L'idée de vos livres respectifs, c'est de nous aider à distinguer le bon grain de l'ivraie. Et la recherche scientifique permet de faire ce tri, hein, professeur Nino.
C'est exactement ça. On peut dire de façon extrêmement simpliste que la médecine du siècle dernier a essayé de chercher les molécules les plus efficaces pour des maladies. Et en fait, on a isolé des maladies simples et on a trouvé les traitements qui étaient les plus pertinents. Aujourd'hui, on rentre avec les maladies chroniques, avec le vieillissement, avec des troubles notamment de l'enfance, etc., sur des maladies complexes, le diabète, la bronchopneumopathie chronique obstructive, bref, plein de maladies complexes qui exigent des solutions multiples. Et vous l'avez très bien dit, il s'agit bien d'avoir des solutions multiples pour traiter effectivement un problème, une maladie qui est complexe.
La recherche permet donc de distinguer les interventions non médicamenteuses les plus sûres et les plus pertinentes et de mettre de côté les pratiques qui n'ont démontré aucune utilité, qui peuvent s'avérer dangereuses. Alors, dans votre livre, j'ai relevé parmi ces médecines alternatives à éviter l'éthiopathie, le masque à la fente de rossignol, ou encore l'iridologie, une technique dont l'objectif est d'étudier la partie colorée de l'œil, l'iris, en vue d'apprécier l'état de santé global d'une personne. Là, il n'y a pas, pour ce type de médecine douce, avec de gros guillemets, il n'existe pas de preuves scientifiques, Grégory Nino.
Exactement, il y a un effet marketing intéressant, notamment pour le masque à la fiente d'oiseau, en effet aux États-Unis, sur lequel on fait du buzz avec ça, mais il s'agit bien de marketing. Il ne s'agit pas d'une intervention de médicamenteuse avec une démonstration, avec une explication mécanistique de comment ça marche, et évidemment une posologie qui soit adaptée, et aussi des professionnels qui vont les mettre en œuvre correctement. Donc effectivement, là, on est dans une nébuleuse sans science.
Oui, Patrick Lemoine. Je n'avais d'ailleurs jamais entendu parler de ces masques à la fiente d'oiseau. Moi qui suis un éleveur d'oiseaux, ça m'intéresse beaucoup. J'ai peut-être trouvé un débouché pour les voyages.
Tout à fait. Et puis vous revenez, Grégory Nino, sur des pratiques n'ayant pas fait leurs preuves. Elles ne sont pas dangereuses, mais elles n'ont pas fait leurs preuves.
Oui.
Des médecines douces en vogue, utilisées partout et qui ne résistent pas à l'examen scientifique. Alors je cite la sophrologie contre la fibromyalgie, la clown-thérapie contre l'anxiété des enfants hospitalisés, l'hydrothérapie du côlon ou encore le jeûne intermittent pour éviter les maladies cardiovasculaires. Là, pour l'instant, il n'y a pas de preuves.
Voilà, malgré ce qu'on peut lire parfois dans des magazines ou ce qu'on peut lire évidemment sur les réseaux sociaux, il y a là absolument aucune étude et notre but est vraiment, la société savante NPIs veut travailler à cet aspect-là en disant on n'est pas là pour juger, on est là pour encourager la recherche et pour peut-être préciser les protocoles jusqu'à imaginer qu'un jour ces pratiques soient effectivement validées par la science.
Alors Patrick Lemoine, ces pratiques ne résistent pas à l'examen scientifique mais elles peuvent détenir, vous l'avez dit, un effet placebo bénéfique.
Absolument. Et on voit comme ça, bah par exemple pour l'auditeur qui a parlé de l'amélioration grâce à l'imposition de pierres sur la peau de ses douleurs articulaires, c'est clair que s'il y croit, ou si ça lui a été bien vendu, bien présenté, à ce moment-là, il va probablement se mettre lui-même à fabriquer, grâce à son cerveau qui y croit, des anti-inflammatoires, des antalgiques, voire des antifièvres, puisqu'on est capable de tout fabriquer, on sait tout faire. Vous voyez, quand j'ai introduit en France, en 82, le traitement de la dépression saisonnière par la lumière, au début, j'ai eu quand même des grosses attaques, parce que c'était pas un médicament. Maintenant, c'est universellement admis, sans problème. Donc il y a vraiment des démarches qui sont bien démontrées scientifiquement, comme la lumière, sauf que la lumière, ça marche pas dans tout. Et que ça peut même être dangereux si on a un problème ophtalmologique.
Le problème, c'est quand un charlatan vous dit « imposez-vous des pierres pour tout un tas de maladies, de pathologies, et laissez tomber les médicaments, etc. » Enfin, voilà, c'est là le problème, professeur Nino.
Alors, ce n'est pas que là le problème. Effectivement, donc, le terme médecine alternative va souvent dans la perspective d'arrêter un certain nombre de pratiques conventionnelles. Mais c'est pas que ça. Je pense qu'il faut aussi pouvoir le remettre dans un contexte d'un mode de vie et d'une pratique culturelle. Vous l'avez évoqué dans une superbe émission, encore une fois, dans un podcast, je recommande aux auditeurs d'aller le revoir, mais une fois par mois, aller au musée, peut, pour les personnes de 65 ans, avoir un bénéfice. Mais bien sûr, mais il s'agit bien de se faire du bien, mais vous n'allez pas imposer à ce que toutes les personnes de plus de 65 ans aillent au musée. Vous voyez, donc mais c'est tout l'enjeu des interventions de médicaments.
Vous pensez que le musée ne fait pas de bien quand on a moins de 65 ans.
Professeur Grégory Ninot, on connaît tous autour de nous ce proche, ce collègue, ce youtubeur qui a essayé telle médecine douce non prouvée par la science, qui en a perçu une efficacité et qui devient prosélyte. Mais si, essaye, au pire, ça te fera pas de mal. On l'a tous vu et entendu, ça.
Oui, oui, et oui. Une médecin qui s'appelle Béatrice Logneuz de Montpellier, qui a fait une thèse sous ma direction, a fouillé les réseaux sociaux, 200 000 posts sur des femmes atteintes de cancer du sein. Et en fait, le meilleur prescription est le proche ou la personne qui a la même pathologie. Non, tu devrais essayer. Vous avez très bien dit, ça ne doit pas vous faire de mal, ça ne doit pas te faire de mal, tu devrais y aller. L'inconvénient, c'est que là, tout d'un coup, on rentre dans, il n'y a pas d'examen médical, donc on ne sait pas quelle pratique va être pertinente, et ensuite, l'usage devient tout d'un coup extrêmement dangereux parce qu'on ne sait pas où on va.
Il faut bien comprendre que certaines médecines dites douces, dites naturelles, parlons par exemple des compléments alimentaires antioxydants, ça fait du bien, ça permet normalement d'éviter d'avoir un certain nombre de pathologies, de vivre plus vieux en bonne santé. Oui, mais si j'ai un cancer et que j'ai une chimiothérapie, certaines études montrent que peut-être ces mêmes antioxydants banals qu'on a sans ordonnance peuvent s'opposer à la chimiothérapie. Une étude a montré 40% de mortalité en plus pour des gens qui avaient un cancer du sein, qui étaient en chimiothérapie et qui prenaient des médecines de compléments alimentaires. Donc, exactement, on doit faire très attention. Donc, en un mot, allez pas voir des charlatans, essayez de voir des gens qui ont un minimum de diplôme.
Allez, dans un instant, vous verrez comment les médecines complémentaires peuvent nous aider en cas de stress, d'anxiété ou d'épisode dépressif. En attendant, on écoute Madness Our House, et ça fait plaisir à notre réalisatrice, Claire Destacan.
Where's his Sunday best? Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep. He can't hang around. Something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house in the middle of our street.
Something tells you that you've got to move
in the middle of our. Father gets up late for work. Sends the kids to school, sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.
Madness Our House.
C'était après une énorme gueule de bois, une full moon party, qu'un gentil monsieur est venu nous masser les mains avec de l'huile d'orchidée.
Grand bien vous fasse.
Et là, plus rien. Plus rien, envolé. Alors que 2 heures avant, on a pris des doliprane, que dalle.
Sur France Inter.
10h25 et ce matin, petit tour d'horizon des médecines douces qui ont fait leur preuve d'un point de vue scientifique avec le professeur Grégory Ninot et avec le docteur Patrick Lemoine, standard ouvert au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Petit pan sur le bec relevé par certains auditeurs. L'auditeur parler de lithothérapie et non de gémothérapie. La lithothérapie, en deux mots, Grégory Ninot.
On pose des pierres voilà. Qui sont parfois de températures différentes sur le corps et avec des soi-disant bénéfices.
Docteur Patrick Lemoine, je rappelle que vous êtes psychiatre. Les troubles fonctionnels, comme la fatigue, les douleurs de type lombalgie, les maux de tête, les insomnies, l'anxiété, représentent une large part des consultations. Les médecines complémentaires ont toute leur place pour soulager et prévenir.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que effectivement, en médecine générale, 60% des consultations sont représentées par des maladies dites fonctionnelles, c'est-à-dire où on ne trouve pas de cause anatomique, organique, démontrable. Et il faut bien reconnaître que la médecine occidentale n'a rien à vendre dans ce domaine-là et a tendance à prescrire des médicaments qui font plutôt plus de mal que de bien. Ce qui veut dire que moi qui ai un poste d'enseignant à Pékin, où l'approche orientale n'a pas grand-chose à vendre dans les maladies organiques, mais a beaucoup à dire sur les maladies fonctionnelles, et je pense qu'il y a un complément tout à fait remarquable qui pourrait être fait, et tel que je l'ai vu dans certains hôpitaux occidentaux de Pékin, qui font venir des équipes de médecine chinoise, et je pense qu'on aurait tout à fait intérêt à marier les approches pour les maladies fonctionnelles, éventuellement à l'oriental, mais il y a d'autres approches aussi, et l'approche organique. Par exemple, dans l'hôpital où j'ai pas mal travaillé à Pékin, un hôpital de rééducation fonctionnelle, où ils font classiquement de la chirurgie, de la rééducation, eh bien, il y a des acupuncteurs, il y a des masseurs, il y a des gens qui font des moxas qui viennent, et c'est formidable de les voir faire.
Bonjour, je voulais apporter mon témoignage par rapport à mon utilisation des médecines douces qui m'ont beaucoup aidé dans ma dépression postpartum. La médecine générale me proposait uniquement un traitement à base d'antidépresseurs et d'anxiolytiques avec beaucoup d'effets secondaires et je ne souhaitais pas partir voilà dans ce processus-là médical avec beaucoup d'accoutumance. Je me suis tournée vers les plantes, vers le shiatsu, vers la sophrologie, vers le yoga, la méditation, et je peux dire que vraiment après beaucoup beaucoup de mois de ces traitements-là, j'en suis sortie.
Et on vient d'écouter Aude qui vient de nous laisser une note vocale. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur Ninot?
Elle dit des choses importantes, d'une part que en fait les patients sont dans une errance thérapeutique forte de par les informations médiatiques et qu'ils bricolent pour l'instant telle ou telle pratique et qu'aujourd'hui on a un vrai besoin que les médecins, et il y a eu une évolution très importante l'année dernière grâce au CUMIC et notamment le CUMIC, le Collège Universitaire des Médecines Intégratives et Complémentaires, qui est présidé par Julien Nizard qui est un professeur à Nantes, en faisant 20 heures obligatoires pour tous les médecins sur les interventions de médicamentos. Ils ont un nouvel arsenal complémentaire et sur lequel cet arsenal, ils doivent l'utiliser. Et vous avez absolument raison, madame. Il y a, à travers une plante particulière, dont je le cite dans mon ouvrage, mais le millepertuis, sur lequel il peut y avoir, à des doses particulières, des effets significatifs, mais combinés avec une pratique, mais pas n'importe quel yoga. Et donc, il y a une intervention spécifique. Et pareil, sur l'activité physique, j'ai collaboré à l'expertise collective INSERM qui a été publiée en 2019 sur les programmes d'activité physique. C'est pas juste bouger plus, mais bien un programme antidépresseur spécifique avec une dépense énergétique spécifique et avec des pratiques spécifiques qui vont avoir un impact significatif sur les symptômes anxio-dépressifs ou dépressifs. Donc c'est bien, encore une fois, de sortir de la nébuleuse pour entrer sur quels INM adapter.
Alors face à l'angoisse, à l'anxiété, au stress que nous avons vécu ces 2 dernières années de crise sanitaire, quelles sont les interventions non médicamenteuses, les INM les plus fiables? Contre l'anxiété, Grégory Ninot, vous préconisez la thérapie MBCT. Expliquez-nous ce qu'est cette thérapie MBCT.
Alors, MBCT veut dire Mindfulness Based Cognitive Therapy, donc une thérapie par la cognition et en même temps par la méditation, et la méditation qui est notamment vulgarisée par Christophe André. Mais c'est pas n'importe laquelle. elle doit avoir, et donc il y a eu 10 essais randomisés contrôlés, qui montrent qu'il y a une amélioration du stress, une amélioration de l'anxiété, une amélioration de la qualité de vie, et donc cette thérapie, en fait, cette pratique, elle a une durée donnée, donc elle a 8, elle dure pendant 8 semaines, pardon, et il y a des exercices particuliers de psychoéducation pour repérer les signes de stress, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très protocolisé et sur lequel aujourd'hui des psychologues l'utilisent en France.
Cette thérapie, c'est un complément à un traitement médicamenteux ou elle le remplace?
C'est exactement ce qu'a dit Patrick tout à l'heure. Lorsque les dépressions sont sévères, il y a une recommandation aujourd'hui à plutôt, je l'ai évoqué, multiplier en fait les interventions et que plus effectivement la pathologie est sévère et plus on va plutôt combiner, alors que dans certains cas de figure, notamment pour des questions plus légères, le médecin peut effectivement orienter sur telle ou telle pratique aussi en rapport et en complément de la préférence des patients.
Et vous, docteur Patrick Lemoine, contre le stress et l'anxiété, quelle médecine complémentaire préconisez-vous?
Prenons un exemple très simple. Le nombre de personnes qui ont été agressées, braquées, violentées, bataclanisées, promenades désanglaisées, etc., est considérable, hein, puisque je considère qu'à peu près un tiers des personnes qui sont hospitalisées en psychiatrie ont des syndromes post-traumatiques et deux tiers chez les adolescents. Là, encore une fois, les médicaments n'ont rien à dire dans ce domaine-là, alors que c'est une pathologie. Quand j'étais étudiant, on disait que c'était la plus grave en psychiatrie, qui mène au suicide, qui mène à l'alcoolisme, qui mène à la toxicomanie, à la dépendance médicamenteuse. Un traitement marche remarquablement bien, c'est ce qu'on appelle EMDR, Eye Movement Desensitization Reprocessing, c'est-à-dire une désensibilisation au stress, avec une reprogrammation grâce au mouvement alternatif. Parce que les yeux, c'est un détail. Ça peut être le son, ça peut être un tapotement de chaque côté des genoux, etc. Eh bien, cette technique qui a archi démontré son efficacité, que toutes les armées du monde préconisent, après la guerre du Golfe, après toutes les guerres, ça a été fait avec succès. Moi-même, je suis un praticien MDR, c'est impressionnant les résultats. C'est pas encore assez connu. Et on ne sait pas à quel point nombreuses sont les personnes qui souffrent de ces syndromes post-traumatiques. Donc ça, c'est l'exemple type d'une efficacité. Dans le domaine qui est le mien, le sommeil, ce qu'on appelle l'hygiène des rites, c'est-à-dire remettre les gens à leur bonne heure, est essentiel.
Et est-ce que le MDR fonctionne pour lutter contre le stress ou l'anxiété ou...
Alors oui et non. Oui, si c'est une anxiété flottante, permanente, non. Pas tellement. Mais en revanche, je l'utilise beaucoup pour toutes les phobies. Parce que je considère qu'un stress à venir, par exemple, j'ai peur d'une araignée, eh bien je vais faire vivre, c'est dérivé de l'hypnose, hein, le MDR, je fais vivre à la personne une rencontre avec une araignée de manière hypnotique, et je la désensibilise, et j'ai ainsi traité beaucoup de phobies de toutes sortes, notamment des phobies scolaires chez des enfants, avec beaucoup de succès, parce que la phobie est un stress à venir.
Grégory Nino.
Le MDR également dans mon livre, donc on est tout à fait raccord. Le MDR pour le stress post-traumatique, c'est une pratique particulière sur laquelle les données sont probantes. Il y a de la littérature et je voudrais juste témoigner puisque Patrick Peloux, donc après les attentats,
un urgentiste
a effectivement dit « moi je m'en suis sorti grâce à l'EMDR ». Donc ces pratiques, elles existent, mais encore une fois, il faut les chercher.
Alors au cœur de l'hiver, après 2 ans de crise sanitaire, nous sommes presque tous fatigués. Que proposent les interventions non médicamenteuses en la matière? Alors, j'ai repéré dans votre livre, Grégory Nino, le massage suédois anti-fatigue. Ça m'a un peu étonné. Le massage suédois anti-fatigue. Il y a des preuves scientifiques, il y a eu de la recherche scientifique sur ce massage suédois.
C'est étonnant et c'est pour ça que je n'ai aucun a priori. Je suis un chercheur. Ouais. Et donc, en tant que chercheur, je regarde la littérature de façon... j'ai pas à recommander, j'ai aucun conflit d'intérêt avec quelques pratiques, et ni avec les Suédois d'ailleurs. Et donc, j'ai évalué effectivement la littérature et on trouve parmi... il y a plus d'une centaine de massages répertoriés, ce massage-là avec un essai clinique et plusieurs essais cliniques, 3 précisément, qui montrent que une fois par semaine, pendant 3 semaines, il y a une réduction de la fatigue et d'une fatigue subjective naturellement, mais en tout cas avec la circulation sanguine, avec l'idée de s'apaiser, va avoir un impact. Et attention, ce protocole doit durer 50 minutes, c'est pas juste dans un aéroport.
Et en quoi consiste ce massage suédois?
C'est une application sur tout le corps, il est assez profond, en fait c'est un massage assez profond et sur tout le corps et sur lequel voilà, il y a des bénéfices particuliers.
Professeur Nino, contre la fatigue chronique, l'exercice gradué oui. a fait ses preuves. Rappelez-nous peut-être en quelques mots, Patrick Lemoine, ce qu'est le syndrome de fatigue chronique.
Alors, syndrome de fatigue chronique, ben, comme son nom l'indique, c'est une fatigue qui dure très longtemps, pour lequel on ne trouve pas particulièrement d'origine, que certains médecins mettent en doute, d'autres non, qui restent assez mystérieuses. En tout cas, cette pathologie n'a pas de traitement officiellement validé.
Grégory Nino, sur cet exercice gradué qui fait ses preuves contre la fatigue chronique.
Des patients douloureux chroniques fatigués chroniques ont souvent en fait une difficulté à se remettre en mouvement. Et donc c'est tout un programme qui a été établi par des Américains, là encore prouvé par des essais et par des études mécanistiques montrant qu'en fait il faut graduer l'activité et surtout ne jamais aller trop loin et trop fort. Et en fait c'est un programme qui va progressivement augmenter la dose, la quantité d'activité physique, plutôt à vocation aérobie, donc pas de renforcement musculaire, donc pas de douleur musculaire pour avoir un impact significatif en trois mois. Pardon.
Docteur Patrick Lemoine, est-ce que la première des médecines douces ne serait pas un bon sommeil ?
Vous prêchez à convertir.
C'est pour ça que je vous pose cette question.
Non, il est archi démontré finalement que c'est sur le sommeil que tout repose. Parce que c'est au cours du sommeil, chez un adulte, au cours des deux premiers cycles, c'est-à-dire les trois premières heures de sommeil aux horaires habituels, j'insiste là-dessus, qu'on fabrique la totalité de l'hormone de croissance. Et c'est grâce à cette hormone de croissance que, par exemple, la nuit, on va restaurer l'extrémité de nos rubans d'ADN, qu'on appelle les télomères, qui sont le gage d'une longue vie en bonne santé. Si on ne dort pas aux bonnes heures, déjà, on n'aura pas cette hormone de croissance. On aura du mal à cicatriser, on aura du mal à mémoriser. On aura du mal pour les garçons à fabriquer des spermatozoïdes. Bref, si on dort bien, ben ça permet de réinitialiser toutes les nuits son logiciel immunitaire. Et donc, comme on sait que, par exemple, les infirmières de nuit ont plus de risques de cancer du sein, le fait de bien dormir suffisamment longtemps aux bonnes heures permet d'éviter le Covid, ça a été montré aussi que les gens qui se retrouvent hospitalisés pour le Covid sont des gens qui dormaient mal à l'origine. Ça, c'est le réseau Morphée qui l'a montré. Bref, tout repose sur le sommeil. Et j'insiste, dormir sans somnifères, qui sont des poisons.
Vous êtes
qu'il faut
un pourfendeur
éviter.
Des somnifères.
Je suis un pourfendeur des somnifères, parce que là encore, les études sont probantes et montrent que 3 mois de benzodiazépine et de somnifères, donc tranquillisant somnifère, c'est pareil, hein, en fait. Un somnifère n'est qu'un tranquillisant trop dosé. Qui sont des produits qui ne font pas dormir, qui anesthésient. 3 mois suivis sur 14 ans, c'est quand même des grosses études chez 106 000 sujets, eh bien, ceux qui en ont pris ont beaucoup plus de risques de mourir que les autres. Donc, on doit dormir à son heure, le temps pour lequel on est génétiquement programmé, et surtout sans prendre de médicaments.
Alors, la santé mentale des Français en a pris un coup après donc 2 ans de crise. Santé publique France a montré une augmentation des épisodes dépressifs depuis le début de la pandémie. Alors, évidemment, les médicaments antidépresseurs sont essentiels, mais quelles sont les interventions non médicamenteuses qui ont fait leur preuve en la matière? J'ai relevé dans votre livre les thérapies comportementales et cognitives, Grégory Nino.
Les TCC, donc thérapies cognitivo-comportementales, sont effectivement aujourd'hui très nombreuses.
Quoi exactement une TCC?
Et elles se spécialisent. En fait, c'est une méthode qui est définie avec un protocole qui va soit être à visée plutôt de méditation et plutôt de relaxation, et on va parler de la troisième génération qui est le MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, où on va parler de pratiques TCC véritablement à visée cognitive sur lequel on va traiter le problème. Et voilà. Et donc, il y a deux courants particuliers qui ont fait leur preuve, donc deux INM, deux interventions non médicamenteuses, dont les données sont extrêmement probantes pour montrer que c'est pas n'importe quelle intervention psychologique, mais bien ces deux interventions qui vont avoir des bénéfices significatifs.
Tiens, Peggy nous écrit, malheureusement, ces médecins qui s'intéressent aux médecines complémentaires coûtent cher et ne sont pas ou pas bien remboursés par les mutuelles. Grégory Nino.
Oui, l'enjeu est aujourd'hui de clarifier, comme je le disais au départ, non seulement la solution de diagnostic et donc de repérage des besoins nécessaires à ces INM, et d'autre part, après, de concevoir les modalités de remboursement, mais je m'inscris en faux parce qu'il y a aujourd'hui des mutuelles, il y a aujourd'hui l'assurance maladie, on ne le sait pas assez, mais y compris des centres hospitaliers, dans mon centre, l'Institut du cancer de Montpellier, par la dotation d'établissements. Il y a aujourd'hui des psychologues spécialisés anti-cancer qui vont avoir un effet sur l'anxiété. On va avoir des spécialistes, des kinésithérapeutes, etc. Donc, pour l'instant, on est plutôt dans si vous voulez, une étape ou une phase qui est simplement de bêta-testing des pratiques et qu'il est temps d'avancer.
Oui, moi, je suis pas bien d'accord avec l'auditrice parce qu'en réalité, à partir du moment où c'est un médecin qui propose un traitement, c'est pris en charge aussi bien par la Sécurité sociale que par les mutuelles. De plus, il faut bien le reconnaître, c'est le premier gouvernement qui accepte de lancer une prise en charge par les psychologues en ville et qui aussi favorise l'installation des psychologues, pas qu'en psychiatrie, mais également dans d'autres services. Donc je pense que là, enfin, la France va dans le bon sens.
Beaucoup de questions d'auditeurs vont dans le même sens. Comment trouver un soignant qui a le réflexe d'utiliser ces médecines complémentaires et comment éviter les déconvenues ?
L'enjeu de la structuration est actuel, donc vous avez des sites web effectivement qui commencent à informer des praticiens. Moi je pense que dans cette pratique, elle ne peut se faire qu'en équipe, qu'en staff, et qu'il ne faut pas rester avec un seul praticien, et que l'idée c'est de pouvoir échanger, parler, et que quelque part... En prévention, on peut effectivement trouver aujourd'hui des recommandations par des sociétés savantes et que ensuite, lorsqu'on est dans l'étape du soin, on peut tout à fait avoir un médecin qui va orienter de façon pertinente sur des praticiens qui vont être recommandés. Et je crois que les constructions de territoires de soins, de proximité, vont aller de plus en plus vers un lissage des bonnes pratiques et des bons praticiens. Utilisons les bonnes pratiques.
Et nous accueillons Carole. Bienvenue, vous appelez d'Aix-en-Provence, Carole.
Bonjour.
Bonjour.
Donc, merci pour votre émission parce que je pense qu'elle est assez importante, en fait.
Merci.
Donc, je me permets de partager avec vous, justement, une expérience. Donc, moi, suite à des crises d'angoisse, j'ai fait des séances de MDR. J'en ai pas fait beaucoup, d'ailleurs. J'en ai fait deux. Et il y a clairement eu, pour moi, un avant et un après. Voilà. Ça a changé ma vie. Voilà. Alors que j'avais ces crises d'angoisse depuis très très longtemps. Voilà, donc ça m'a permis de comprendre aussi comment le souvenir fonctionnait.
Oui.
Donc c'est ce que j'ai trouvé d'intéressant aussi dans la pratique de l'MDR.
Vous nous avez parlé également au standard d'un outil très très simple hein, avec des effets qui peuvent être très intéressants, c'est la cohérence cardiaque.
Absolument. Absolument.
Expliquez-nous un petit peu dans quel cadre vous avez utilisé cette cohérence cardiaque.
Alors là, justement, c'était pour ma mère. Donc ma mère qui, à la suite d'un AVC, en fait, a eu des problèmes de sommeil. Et donc on lui a marqué tout un tas de traitements, en fait. Et à côté de chez elle, il y avait justement un centre qui fait de la cohérence cardiaque. Donc on a décidé d'essayer.
Alors expliquez peut-être ce qu'est la cohérence cardiaque en quelques mots, peut-être Patrick Lemoine.
Oui, c'est une technique extrêmement
respiratoire,
simple, très très simple et tout à fait validée, qui repose sur la respiration. Et il s'agit en gros d'inspirer lentement pour les garçons en comptant jusqu'à 6 et pour les filles jusqu'à 5, de bloquer la respiration, pareil 6 ou 5, et d'expirer 7 ou 6.
Et
ça,
5
sur 5 cycles, ça sur 5 cycles. Et rien que ce système, il y a en plus des applications gratuites qui sont très faciles à télécharger. Et là encore, on est dans les techniques non invasives, non dangereuses, archi validées et qui marchent.
Professeur Nino, sur la cohérence cardiaque.
Oui, je confirme ce que dit Patrick. Il est évident que cette pratique a une efficacité, mais évidemment pas pour tout. Et tout l'enjeu est de pouvoir encore une fois...
Sur quoi, par exemple, Grégory Nino, la cohérence cardiaque, si on la pratique, par exemple, matin, midi et soir, régulièrement, tout au long de la semaine?
C'est ce que j'évoquais. En fait, on rentre dans une pratique culturelle. Ça devient une technique comme l'idée de méditer 3 minutes tous les jours, le matin, et peut avoir un impact. Mais c'est bien un mode de vie. Et sur lequel on sort de la logique de la thérapeutique avec un impact ciblé et donc avec une dose suffisante. Et souvent, les patients peuvent, de cette technique, n'en faire qu'une technique pour une technique et non pas une méthode, non pas une intervention non médicamenteuse.
Carole, je vous laisse terminer en quelques mots votre témoignage sur la cohérence cardiaque.
Alors justement, la cohérence cardiaque, ça permet aussi, en fait, on s'en aperçoit vraiment, de reprendre conscience de son corps et de ses sensations, en fait. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui sont en apnée, hein. Enfin, tous les jours, il y a des moments, moi, où je suis en apnée, en fait, et où j'oublie de respirer profondément. Voilà.
Merci.
Donc, je valide à fond, moi.
Merci beaucoup, Carole. Alors, vous me faites une magnifique transition, car Grégoire nous pose la question suivante. L'Agence du médicament alerte contre certains respirateurs contre l'apnée du sommeil, soupçonnée d'être potentiellement cancérogène. Existe-t-il des alternatives issues des médecines douces? Qu'est-ce que l'apnée du sommeil en quelques mots, Patrick Lemoine?
C'est une maladie extrêmement répandue qui peut malheureusement mener à l'infarctus, à l'AVC, à l'Alzheimer ou à la mort subite. Donc c'est du lourd qui fait que certaines personnes qui ronflent beaucoup trop fort et ont des pauses respiratoires de plus de 10 secondes et on traite absolument à partir de plus de 30 pauses respiratoires de plus de 10 secondes par heure de sommeil.
Et Grégory Nino, j'ai repéré dans votre ouvrage une intervention non médicamenteuse qui pourra peut-être aider Grégoire, c'est l'entraînement physique avec un protocole très précis, hein.
Oui, absolument. C'est un protocole qui a été testé par le professeur Yves Devilliers avec un médecin qui s'appelle Mathieu Desplan, sur lequel l'essai clinique montre qu'il y a un programme de renforcement musculaire et également d'endurance, et je le cite dans le livre, et il y a plein de références sur lequel c'est un programme qui va être assez intensif sur une période relativement brève, et effectivement, il peut aller voir son médecin, et ça peut se pratiquer soit dans un centre de soins de suite de réadaptation, mais en tout cas, il y a effectivement une méthode qui fonctionne vis-à-vis de cette problématique.
Certes, et j'aime beaucoup Yves Devilliers qui insiste pour dire que c'est complémentaire au respirateur, ce qu'on appelle la PPC, la Positive Pressure Treatment, c'est-à-dire on souffle dans les bronches des gens, mais on ne peut pas s'en passer. Je ne vois pas en quoi ça pourrait être cancérigène, je ne comprends pas ça.
Il y avait un papier dans le Parisien avant-hier, me semble-t-il, et donc c'est une autorité de santé qui alerte visiblement contre les effets potentiellement cancérogènes d'une marque précise,
c'est ça,
que je ne citerai pas.
C'est ça. C'est des appareils qui sont mal fichus, qui sont pas bien faits.
C'est une marque en particulier.
Exactement. Donc là-dessus, on peut être d'accord. Mais de manière générale, j'insiste beaucoup à tous les apnéiques, gardez bien votre appareil si vous voulez éviter des gros problèmes de santé. Il y a d'autres techniques quand même pour les gens qui n'arrivent pas à supporter leur appareil. C'est ce qu'on appelle, c'est un embarbar, une orthèse d'avancement mandibulaire, c'est-à-dire une gouttière qu'on porte la nuit et qui avance le maxillaire inférieur. Et il y a une recherche très intéressante, nommée notamment par le professeur Pierre-Philippe à Bordeaux, qui implante une électrode dans la base de la langue et qui permet, chirurgicalement, c'est une espèce de pacemaker respiratoire la nuit, qui a l'air assez prometteuse.
Grégory Nino.
En deux mots, juste évoquer le fait qu'on a besoin d'une médecine alternative ou d'un système en tout cas de vigilance. Nous avons de la pharmacovigilance en France, nous avons de la matériovigilance pour les dispositifs médicaux. L'AHAS veut aller plus loin. Moi, je pense qu'on a besoin vraiment d'une évaluation et d'un suivi, donc d'une surveillance de ces pratiques. Et je pense que les praticiens qui veulent faire du bon travail, et il y en a beaucoup en France, auraient aussi quelques sécurités, comme les patients, d'avoir un système de vigilance qui se mette en place. Et on le promeut à travers cette société savante qu'on a créée.
Allez, on continue notre tour d'horizon des médecines complémentaires, prouvées par la science. Coup de projecteur sur la spiruline, une algue très en vogue, qui peut aider à lutter contre l'obésité. Ce sera juste après PR2B qui interprète Rayon Gamma.
Minuit, soleil, tête sur la vitre, j'ai pas sommeil. La city dort depuis 6 mois. Tu sais vraiment n'importe quoi ce qu'on vit, dis-moi minuit, Marseille. Je voudrais bien que la vie se réveille, qu'elle remplisse tout d'un feu grisant, qu'on n'entende que les pneus qui crissent, la vie reprend. Alors c'est comme ça, on faisait comment déjà, sans les rayons. Sur l'oreiller, et moi je me retiens encore une fois de pleurer. Minuit, pareil, que les chiens qui se la coulent belle. 18 carats sur le collier, et la même envie insoutenable de s'évader. Alors c'est comme ça, on faisait comment déjà, sans les rayons gamma. Alors, si on changeait tout ça, je sais qu'on survivra, comme les rayons gamma. Alors c'est comme ça, comme les rayons gamma. Alors c'est comme ça, comme les rayons gamma. Je crois qu'on a touché le fond, la lumière se fait. Je voudrais qu'on court jusqu'à aller faire l'amour et puis tout recommencer. Je crois qu'on s'est touché là. Ça rend fou, mais je voudrais qu'on court jusqu'à l'en finir et puis tout recommencer. Alors c'est comme ça, on faisait comment déjà, sans les rayons gamma. Alors si on change tout ça, je sais qu'on survivra comme les rayons gamma. Alors c'est comme
Et on vient d'écouter PR2B qui interprétait Rayon Gamma.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebéi.
Et ce matin, petit tour d'horizon des médecines douces qui ont fait leur preuve d'un point de vue scientifique ou non.
Quand on est dans la nature, il va y avoir tous ces ressentis, on va travailler sur les cinq sens. Il va y avoir un déclenchement naturel à l'intérieur de nous qui va faire que notre corps, notre système nerveux va enfin pouvoir s'apaiser.
Les arbres auraient même d'innombrables vertus. Ils feraient baisser le cortisol, l'hormone du stress, et renforceraient nos défenses immunitaires grâce à des molécules invisibles, les phytoncides, émises par ces végétaux. Si l'existence des phytoncides ne fait plus débat, il n'y a aucun consensus scientifique sur leurs éventuels bienfaits sur la santé.
Extrait d'enquête de santé sur France 5 diffusé le 25 mai 2021. Docteur Lemoine, professeur Grégory Nino, que pensez-vous de ces bains de forêt? Les seules études viennent du Japon, où le bain de forêt est très pratiqué de façon culturelle. Alors le médecin biologiste japonais Ching Li, qui a publié Shirin Yuku, l'art et la science du bain de forêt, écrit que, je le cite, « marcher dans le bois, dans les bois, produit un effet positif sur l'arthrose, l'insomnie, l'hypertension, le stress et l'anxiété. » Comment a-t-il prouvé cela, docteur Lemoine?
Je pense qu'il y a un habillage pseudo-scientifique à une pratique de bon sens, parce qu'il y a des personnes qui aiment bien être dans les forêts, qui aiment bien toucher des arbres.
C'est du bon sens.
Moi, je peux vous faire
les bienfaits de la marche en forêt.
Demain, je vous fais un livre sur l'herbothérapie, je vous fais un livre sur la désertothérapie, je vous fais un livre sur la montagnothérapie, et je vous démontrerai exactement la même chose. C'est-à-dire que tout ce qui est un peu écologique, qui fait plaisir et que les gens aiment bien, fait du bien. C'est rien de plus. Et normalement...
Il avait mesuré le taux de cortisol, l'hormone du stress, d'un groupe de quinquagénaires avant et après avoir passé 3 jours en forêt. Après les 3 jours, leur taux de cortisol avait baissé et leur défense immunitaire s'était renforcée.
Oui, mais je vous fiche mon billet que si je vous fais la même étude dans un champ avec de l'herbe, je vous trouverai exactement les mêmes résultats.
Professeur Grégory Nino.
Je crois, Ali, qu'il faut arriver à différencier, y compris pour le grand public, quand on parle de montrer quelque chose et quand on parle de démontrer quelque chose. On montre quelque chose, et effectivement, cette randonnée en forêt avec des impacts qui vont être de quelques marqueurs physiologiques, oui, sur un groupe. La question, c'est est-ce que cette pratique est meilleure qu'une autre pour réduire le stress, pour améliorer le sommeil ou pour réduire la dépression? Et effectivement, là, on est là dans une absence totale, pour l'instant, d'études cliniques démontrant. Mais montrant peut-être, mais pas démontrant.
Professeur Nino, pour lutter contre le surpoids, en complément de mesures hygiéno-diététiques, la spiruline, c'est une algue, pourrait nous aider, peut nous aider.
Oui, en effet, il y a une méta-analyse qui a été publiée, que je cite dans mon ouvrage, qui amène que cet apport nutritionnel analgue va avoir une diminution significative du poids, mais dans la mesure, et vous l'avez très bien dit, où il va y avoir donc des mesures hygiénodiététiques complémentaires, et donc les études convergent pour dire qu'il y a un impact. En revanche, évidemment, la spiruline, lorsqu'on en prend et de dose quotidienne, c'est sensiblement pas plus qu'un yaourt en termes de protéines. Donc il ne faut pas après imaginer que cette protéine va avoir un effet significatif de prise de poids musculaire, mais effectivement c'est un complément qui montre sa pertinence lorsqu'il est associé à d'autres INM.
Et quels sont les mécanismes de la spiruline face au surpoids?
Je pense qu'il faudrait vraiment réinviter Dr Chevalier sur cette question-là.
À Montpellier, votre collègue.
Exactement.
Qu'est-ce qu'on peut faire contre, on a beaucoup de questions qui vont dans ce sens-là, contre l'insuffisance cardiaque. Grégory Ninot, est-ce qu'il y a une INM, une intervention non médicamenteuse qui peut aider? Alors moi j'ai relevé dans votre livre que l'aubépine pouvait, en complément évidemment d'un traitement médicamenteux, pouvait être utile. Alors je rappelle que l'insuffisance cardiaque survient quand le cœur perd sa force musculaire et sa capacité normale de contraction, le muscle cardiaque n'assure plus correctement la propulsion du sang dans les artères.
Là encore, il y a des essais cliniques montrant effectivement et démontrant l'efficacité de cette pratique. Il ne s'agit pas de remplacer un médicament, mais lorsque l'insuffisance cardiaque est très légère et sur lequel elle va être prescrite par un médecin et surveillée, manifestement chez certains patients, et donc c'est le professeur Edzard Ernst qui avait fait ses papiers en Allemagne montrant qu'il y a effectivement un bénéfice. Mais on n'est pas dans une visée thérapeutique, on est bien d'accord, mais de réduction de l'impact.
Il y a des effets secondaires à la prise d'extrait d'aubépine?
C'est un élément essentiel de mon livre. Si on est dans une stratégie de santé, toute pratique a un risque de santé. Et je voudrais vraiment insister là-dessus pour dire que toutes les pratiques, y compris les pratiques les plus naturelles, peuvent avoir un risque. Et donc il faut les mesurer et elles sont identifiées, oui.
Docteur Lemoine.
Oui, je voudrais dire deux choses sur l'insuffisance cardiaque. La moitié est due aux apnées du sommeil. Donc le premier traitement, c'est les respirateurs nocturnes. Deuxième chose, c'est que le traitement médicamenteux de base, c'est des plantes, c'est-à-dire la digitale, mais qu'il faut faire très attention parce que la digitaline est un produit très efficace dans l'insuffisance cardiaque, mais qui peut être très dangereux s'il n'est pas prescrit par un spécialiste.
Alors Grégory Ninot, j'ai repéré également dans votre livre un champignon aux vertus médicinales ancestrales pour renforcer la mémoire. Alors, il ne s'agit pas d'un champignon à hallucinogène. On connaît ce champignon sous le nom de crinière de lion ou tête de singe. Il s'appelle donc l'Ericium erinaceus. Et un essai randomisé a comparé l'apport en Ericium erinaceus à un placebo dans le soin des troubles cognitifs de la personne âgée.
De la même façon, en effet, on va trouver sur ce champignon des effets. Il est clair que des médecines traditionnelles, et notamment Patrick l'avait évoqué en Chine, il y a des pratiques, mais ces pratiques de médecine traditionnelle vont subir des essais cliniques et sur lesquels on peut démontrer une efficacité. Mais encore une fois, attention pour les auditeurs, il ne s'agit pas d'une thérapeutique de la maladie d'Alzheimer.
Non,
par exemple.
Bien sûr.
C'est vraiment, mais l'idée d'avoir une amélioration de l'attention et de certaines fonctions cognitives particulières liées à ce champignon.
Grâce à divers composés, ce champignon a donc des effets protecteurs sur les réseaux de neurones et ça a été prouvé par la recherche scientifique.
Exactement.
On arrive au terme de cette émission. Quel serait le mot de conclusion, docteur Patrick Lemoine?
Premièrement, ce sont toutes ces médecines faussement appelées complémentaires ou alternatives sont très importantes, s'adressent essentiellement soit aux maladies qu'on appelle fonctionnelles, sans substrat anatomique, ou en complément des traitements, comme par exemple une chimiothérapie anticancéreuse. Deuxièmement, attention aux sectes, attention aux charlatans.
On fuit si par exemple un charlatan vous propose des jus de légumes, de fruits, place de la radiothérapie ou de la chimio.
Surtout s'il descend la médecine officielle classique et s'il prend beaucoup de sous.
Ouais. Professeur Grégory Ninot, un mot de conclusion?
Je veux dire qu'il n'y a qu'une seule médecine, que l'Académie de médecine a parlé également de la logique de prévention en 2013, que ce rapport dit qu'on va dans une culture de la prévention, et je voudrais simplement citer un grand professeur qui s'appelle Daniel Schwartz, qui disait en 86 ces médecines douces, on peut les évaluer par la science, mais encore faut-il en avoir l'envie, et je pense qu'aujourd'hui on a la capacité de le faire, et il faut que les autorités nous suivent pour accélérer la recherche dans le domaine.
Merci professeur Grégory Ninot, je recommande 100 médecines douces validées par la science et publiées chez Belin. Merci docteur Patrick Lemoine. Je recommande également Médecine douce pour temps dur, c'est publié chez Bûcher Chastel. Demain dans Grand bien vous fasse loisir, on s'intéresse aux bienfaits des comédies romantiques.